journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Notre-Dame de Paris a été sauvée par les pompiers. Emmanuel Macron a tenu à les remercier personnellement.
Et c'est pour cela qu'ils sont venus à l'Elysée. Nous y serons dès le début de ce journal. Et puis, nous nous intéresserons à une menace à ne surtout pas négliger. L'échafaudage en place sur la cathédrale doit être très vite enlevé. S'il s'écroule, ce sont 250 tonnes d'acier qui risquent d'anéantir l'édifice. L'autre problème qui se pose, c'est la main-d'œuvre. Y a-t-il assez d'artisans pour rebâtir la cathédrale? On a fait le point ce matin au ministère du Travail. Et puis, contrairement à ce que certains disent, que les riches donnent pour Notre-Dame en défiscalisant pour se faire de la publicité, c'est pas aussi simple que ça, on vous explique tout. Dans ce journal également, il y a de plus en plus d'enfants vaccinés et c'est bien, ça va à l'encontre des anti-vaccins. Mais nous vous expliquerons en quoi la démarche est plus que nécessaire. Le drame au Portugal avec cet accident de bus à Madère, 29 touristes allemands tués. Les dernières précisions avec notre correspondante à Berlin. Qu'est-ce qui cloche au PSG? Nouvelle défaite à Nantes hier. Avec une équipe décimée, le titre de champion de France se fait attendre. Et puis à Cannes, la sélection officielle du prochain festival, Almodovar, Desplechin, Loach, les frères Dardenne et la suite d'un homme et une femme au programme. La météo, Elena Morna, l'été, c'est maintenant.
On oublie les gelées et tout le monde, ou presque, passe au-dessus de la barre des 20 degrés cet après-midi et sous le soleil, cette atmosphère estivale se maintiendra jusqu'à lundi.
On aime ça, merci Elena. À tout à l'heure, météo complète, ce sera juste avant 13h.
Europe 1.
Ils ont joué un rôle clé. C'est bien simple, sans eux, Pierre, Notre-Dame n'aurait pas été sauvée.
Les pompiers, bien sûr, ils étaient 400 venus de Paris et d'Île-de-France à braver les flammes, à devoir reculer quand le brasier se faisait trop menaçant, à utiliser des lances et non pas des canadaires comme certains, peu avisés, ont pu le dire, on le sait, depuis le début, c'est l'édifice tout entier qui se serait effondré. Les pompiers donc, vaillants, les pompiers héros, ils ont lutté pendant près de 10 heures pour sauver Notre-Dame. Il était donc normal de les remercier. Jean-Rémy Baudeau, vous êtes à l'Élysée où le président Macron les a donc tous réunis.
Et il est en train de prendre la parole. Il est arrivé il y a quelques instants, le président Macron. Il s'est dit très honoré, très heureux, très fier de recevoir les quelques 300 invités qui sont actuellement dans la salle des fêtes. 270 pompiers, des policiers qui ont participé au sauvetage des œuvres d'art, des membres de la Croix-Rouge, de la protection civile. Il y a évidemment des membres du gouvernement, des responsables politiques et religieux. Mais les premiers mots d'Emmanuel Macron, il y a quelques instants, eh bien, ils ont été en direction de ces pompiers qui ont bravé le feu. Permettez-moi d'avoir un mot pour... vous qui avez fait preuve de beaucoup de courage et de dignité, vient donc de dire le président. Son entourage, l'entourage du président qui promet quelques mots très rapides pour ensuite qu'il ait le temps d'aller à la rencontre des pompiers présents dans cette salle des fêtes. Le président Macron, que ses proches ont dit très touché par l'incendie de lundi soir. Son agenda politique, on le sait, il a été largement bousculé. Il n'est plus maître du calendrier, le temps que l'émotion du pays retombe. Depuis deux jours, l'exécutif répète que la politique reprendra ses droits bientôt. Mais pour l'heure, c'est donc un hommage aux héros qui ont sauvé Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale du peuple de Paris, vient de dire Emmanuel Macron.
Merci Jean-Rémy Baudeau, en direct de l'Élysée pour Europe 1.
Et pour vous donner une idée de ce qu'ont vécu les pompiers la nuit de lundi à mardi à Notre-Dame, eh bien, nous avons un témoignage.
Le témoignage du caporal-chef Chuzinski. Elle a 27 ans. Elle est arrivée parmi les premiers sur le brasier.
On ne s'imaginait pas, en fait. Les flammes de plusieurs mètres de haut, c'est... Je me suis dit, mais comment on va faire, quoi? Déjà, faut savoir que pour monter tout là-haut, c'est dans des escaliers noirs en colimaçon, très, très étroits, avec nos tuyaux, l'aérie, la tenue de feu. Et on a la mission d'établir la lance, d'enrayer les propagations. Mais ça se propageait à une vitesse fulgurante. On est obligé de reculer à chaque fois, on reculait le point d'attaque. Et à un moment, on est obligé de se replier dans l'escalier. On ouvre la porte, on voit la toiture totalement embrasée. Voilà, donc on essaie d'arroser au maximum. Il n'y a rien à faire, tout s'effondre. Quand on voit la vitesse de propagation, avec nos deux petites lances, on se sent totalement ridicule. À un moment, on entend un bruit, mais un énorme bruit. Et apparemment, c'était la flèche qui était en train de s'effondrer pas loin de nous. C'est pour ça qu'après, on a eu l'ordre d'évacuer d'urgence, parce qu'il y avait un risque d'effondrement.
Voilà, le courage du caporal-chef Chuzinski avec Roman Hockey pour Europe 1.
Et la priorité, Pierre, maintenant, eh bien, c'est l'échafaudage.
Oui, parce que pour l'instant, il fait doux. La météo n'annonce pas de tempête dans les jours prochains, mais... Le risque en cas de coup de vent un peu fort, c'est que l'échafaudage toujours en place s'effondre ou déstabilise la structure. Et ce sont donc 250 tonnes d'acier qui risquent de s'effondrer. On imagine aisément les conséquences. Justin Morin, qu'a-t-on prévu dans l'immédiat? Va-t-on retirer ce qui maintenant représente une menace?
Alors non, dans l'immédiat non. En fait, il est encore trop tôt pour retirer l'échafaudage. Même si la cathédrale est encore debout, elle reste très fragile. Mais ce qui est rassurant, c'est que plus les jours passent et plus cet échafaudage se sécurise. Parce qu'en fait, il a eu le temps de refroidir et donc de redurcir. Normalement, il doit tenir le coup. La priorité aujourd'hui, c'est toujours de sécuriser toute l'enceinte. C'est ce que les experts et les pompiers sont en train de faire. Chaque recoin est scruté à l'aide de caméras thermiques, de lasers pour vérifier l'état de la structure. Les pignons, c'est-à-dire ces façades de pierre sculptées situées en hauteur, elles sont particulièrement observées. Ces pignons sont à 33 mètres de haut, donc leur équilibre est précaire justement avec le vent. C'est ce que vous disiez, Pierre. Le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers.
Alors rentrer dans la cathédrale aujourd'hui, c'est pas possible. Le pignon nord pourrait être déstabilisé par un coup de vent. Il y a 3 trous béants dans la voûte, donc il va falloir la couvrir. Il va falloir renforcer ces pignons en enlevant un certain nombre de statues qui pouvaient alourdir ce pignon et donc provoquer sa chute. L'échafaudage, c'est un point de vigilance. Maintenant, il s'agit de savoir comment on va le démonter en abîmant le moins possible la structure et notamment la voûte.
Ce démontage de l'échafaudage aura donc lieu, mais plus tard, tant que la cathédrale n'est pas sécurisée. 60 pompiers se succèdent 24 heures sur 24 pour la surveiller et pour le moment, personne ne sait quand pourront commencer les premiers travaux de consolidation.
Merci Justin Morin. Enfin, pour la reconstruction, la question se pose de savoir s'il y a assez de main-d'œuvre pour rebâtir la cathédrale.
Anne-Laure Jumet nous a rejoint. On fait appel à vous parce qu'on entend tout et son contraire finalement sur ce sujet. Ce matin, au ministère du Travail, Muriel Pénicaud a sonné la mobilisation pour ce chantier du siècle.
Oui, parce que l'idée, c'est de créer un appel d'air, de mettre la lumière sur ces métiers nécessaires à la reconstruction de Notre-Dame. Muriel Pénicaud souhaite mobiliser tous les réseaux, les centres de formation des apprentis, les lycées professionnels, une opération baptisée Chantier de France. Il nous faut plus de place, a dit ce matin la ministre du Travail. Et les objectifs sont ambitieux, comme le détaille Bertrand Stalter, président des chambres des métiers, au micro de Maud Descamps.
Nous allons faire une vraie promotion pour essayer de tripler les jeunes qui vont travailler sur ces différents métiers, que ce soit des charpentiers, que ce soit des couvreurs, que ce soit des facteurs d'or, qu'il est vraiment important d'avoir. Ce qui est arrivé à Notre-Dame pourrait arriver à d'autres édifices de ce type-là. Donc pour nous, il est important qu'on transmette ce savoir-faire qu'on a peut-être un peu perdu en France et l'opportunité qui nous est donnée par ce drame de valoriser des métiers qui étaient trop longtemps des voies de garage. Aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée pour montrer que c'est des vrais savoir-faire et aussi de travailler peut-être sur des échanges par Erasmus avec d'autres pays pour valoriser cette jeunesse.
Ajoutons que selon les Compagnons du Devoir, il manque 500 jeunes pour répondre aux besoins sans déstabiliser des entreprises qui ont déjà du mal à trouver en ce moment de la main-d'œuvre, des jeunes qu'on peut, selon les professionnels, former en 2 ans.
Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Et puis nous voulions aussi faire un point sur les dons, car beaucoup de voix s'élèvent, notamment à gauche, sur la défiscalisation un peu facile, selon certains, des grands groupes ou des grandes familles qui donnent. Encore ce matin sur Europe 1, Alexis Corbière de la France Insoumise ironisait en disant qu'on allait bientôt inventer un jeu qui se nommerait « Qui veut défiscaliser des millions ?» Emmanuel Dutheil, c'est pas si simple que ça. Hein.
Oui, puisque les entreprises mécènes ne peuvent pas défiscaliser autant qu'elles le veulent. C'est extrêmement encadré. Chaque année, elles ne peuvent pas déduire de leurs impôts plus de 0,5% de leur chiffre d'affaires. C'est donc malgré tout assez minime. On va prendre, si vous le voulez bien, l'exemple de LVMH, par exemple, en se basant sur son chiffre d'affaires de l'an dernier. Du coup, quel que soit le montant de ses dons, le groupe de luxe ne pouvait pas l'an dernier réduire ses impôts de plus de 140 millions d'euros. Chez LVMH, justement, on est quand même très énervé par cette polémique. Notre position n'a pas été de faire venir des fiscalistes ou de faire des comptes d'apothicaires pour avoir ou non une déduction fiscale. Notre but était bien de dégager le plus vite possible des fonds pour Notre-Dame, nous a-t-on confié. C'est pour désamorcer également cette polémique que certains grands groupes ont carrément décidé de ne pas faire valoir du tout leur droit à cette défiscalisation. Les premiers à le faire, et vous l'avez appris sur Europe 1, c'est la famille Pinault. Pas question de faire porter la charge de son don aux contribuables français, nous ont-ils dit. Chez JC Decaux, idem, le groupe d'affichage renonce là aussi à la réduction fiscale attachée à son don. Chez eux, c'était un don de 20 millions d'euros.
Merci de ces précisions, Emmanuel Dutheil.
Il est 12h38. Europe 1.
Une pause, vous restez avec nous bien sûr et dans un instant, le coup d'envoi de la semaine de la vaccination, il y a une vraie prise de conscience. À tout de suite.
Il est 12h41 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, Pierre, a lancé ce matin la semaine de la vaccination.
Et première campagne de vaccination à partir de dimanche, il y a plus en plus d'enfants vaccinés. C'est un vrai retour de confiance des parents, sachant que tous les enfants nés à partir de 2008, eh bien, ils sont obligés d'être vaccinés. Mélanie Gomez, c'est encourageant.
Et oui, d'autant que seulement 15 mois après la mise en place de l'obligation, les résultats sont là. La proportion d'enfants vaccinés a déjà bien augmenté sur tous les vaccins. 5% de bébés en plus vaccinés avec celui qui est notamment contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Plus impressionnant encore, la progression du vaccin contre le méningocoque C qui provoque des méningites parfois mortelles. Là, on est carrément passé de 39% des bébés de moins de 1 an vaccinés à 76%. Ça fait quand même 36% d'augmentation en seulement une année. Alors vous me direz, vu que tous ces vaccins sont maintenant obligatoires, c'est pas si étonnant non plus que le nombre d'enfants vaccinés augmente, mais en fait, on voit aussi que ça s'améliore chez les enfants plus âgés, ceux qui ne sont pas soumis à l'obligation, justement, comme le précise la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Aujourd'hui, il y a un effet fratrie, c'est-à-dire que les parents sont en train de rattraper des vaccins qu'ils n'ont pas fait faire aux enfants plus âgés de la fratrie. Et je crois aussi, malheureusement, que les deux épidémies de rougeole, celle de 2018 comme celle de 2019, font prendre conscience à nos concitoyens que des maladies qu'on croyait oubliées sont en train de revenir parce que nous avons baissé la garde.
Alors maintenant, pour les autorités, il reste encore un défi à relever, c'est de convaincre les adultes aussi de se faire vacciner eux. Et là, l'urgence en ce moment, c'est par exemple la rougeole. Actuellement, une épidémie sévit en France et dans le monde. Et il y a déjà de nombreux décès, et ça, à cause justement des jeunes adultes non vaccinés.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Justement, à New York, sévit une épidémie de rougeole sans précédent avec des familles parfois religieuses qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants. Le comté de Rockland, dans la grande banlieue new-yorkaise, a annoncé des amendes jusqu'à 2 000 $ par jour pour les parents de mineurs non immunisés.
C'est aujourd'hui que nous attendons le verdict dans le procès en appel d'Abdelkader Merah.
Condamné à 20 ans en première instance et non pas à la perpétuité, car il avait été acquitté des chefs de complicité d'assassinat avec son frère Mohamed, qui a tué, je le rappelle, 7 personnes en 2012 à Toulouse et à Montauban. Et c'est justement tout l'enjeu de cet appel, Chloé Triomphe. Ce matin, les deux accusés ont redit qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ça.
Oui, ce sont les traditionnels derniers mots des accusés qui disposent toujours d'un droit de parole en dernier à l'issue des plaidoiries et avant que la cour parte délibérer. Alors Abdelkader Merah s'est contenté d'une simple phrase ce matin. « Madame la Présidente, je n'ai rien à voir avec les actions perpétrées par mon frère. » Tandis que son co-accusé Feta Malki, qui a un profil de délinquant de droit commun, a exprimé des regrets d'avoir lui vendu le fusil Uzi à Mohamed Merah, arme dont ce dernier s'est servi pour commettre ses assassinats. Alors sur ces quelques phrases, la cour, qui est composée uniquement de magistrats professionnels, on le rappelle, s'est retirée pour délibérer pour une journée qui promet d'être longue, car elle doit motiver son verdict, et notamment sur cette délicate question de la complicité reprochée à Abdelkader Merah. C'est ce que souhaitent l'accusation et les familles de victimes. Mais hier, la défense a longuement plaidé que les preuves faisaient défaut dans ce dossier. Pour condamner, il faut en effet que la cour soit convaincue de la matérialité de la complicité, soit par aide ou assistance, soit par provocation.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Il est 12h44, la suite du journal sur Europe 1 avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Revenons maintenant, Pierre, sur ce terrible accident de car de touriste sur l'île de Madère au Portugal.
Avec un bilan effroyable, 29 morts parmi ces touristes allemands. Le car est vraisemblablement sorti de la route dans un virage serré. 11 hommes, 18 femmes, pour la plupart âgées de 40 à 50 ans, ont trouvé la mort. Nous partons tout de suite à Berlin rejoindre notre correspondante Hélène Kohl. Hélène, en Allemagne, c'est l'émotion.
Oui, c'est le choc évidemment dans tout le pays. La couverture médiatique est très importante. Les photos de cet accident de car font la une des journaux et les chaînes d'information diffusent en boucle, hein, c'est les images du drame. Au moment où le bus est sorti de la route à flanc de colline, il a basculé dans le versant escarpé. Il a fait plusieurs tonneaux avant de s'encastrer contre le toit d'une maison en contrebas. Pour le gouvernement allemand, c'est une horrible nouvelle qui est arrivée hier soir de Madère. Et la chancelière Merkel a tenu à remercier les forces de secours portugaises qui ont travaillé toute la nuit. Une cellule de crise s'active au ministère des Affaires étrangères ici à Berlin pour renseigner les proches des victimes avec un numéro vert mis en place. Le ministre lui-même va partir dans la journée pour Madère avec une équipe de médecins et de psychologues allemands. La priorité, c'est d'identifier les victimes. Un travail rendu difficile par la violence du choc. Il faudra attendre samedi pour avoir la liste complète des 29 morts. Et pour l'instant, on ne sait rien de ce groupe de touristes allemands, même pas leur région d'origine. On voit plutôt sur les images que ce sont des personnes âgées, en tout cas ce sont celles qui apparaissent sur ces images diffusées par les médias allemands, mais pas plus d'informations, rien non plus sur les causes de la tragédie, savoir si c'est une défaillance technique ou bien une erreur de la part du chauffeur. Pour l'instant, ici, c'est vraiment l'émotion qui domine au lendemain de cet accident.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1. En Allemagne, le gouvernement portugais lui a décrété 3 jours de deuil national. Monseigneur Luigi Ventura, le nonce apostolique, a été entendu récemment par la PJ à sa demande. On est toujours dans les accusations accusation d'agression sexuelle à son encontre formulée par un employé de la mairie de Paris. Le représentant du Vatican en France a voulu plaider sa version sans attendre sa levée d'immunité diplomatique. C'est une information Europe 1.
Et maintenant, cette question, Pierre, qui en veut aux résidences secondaires bretonnes ?
Oui, comme en Corse, à une certaine période, la question agite maintenant une douzaine de communes littorales de trois départements, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Morbihan, dans chaque station balnéaire. De très gros tags anonymes ont été apposés dans la nuit de dimanche à lundi, sur les mairies, sur les offices de tourisme, sur les vitrines de nombreuses agences immobilières à chaque fois. Deux inscriptions, un pourcentage, celui des résidents secondaires dans la commune, et puis leur nombre. Beaucoup d'élus de commerçants ont porté plainte dans les gendarmeries de ces trois départements. L'action concertée semble dénoncer la multiplication des résidences secondaires et la spéculation immobilière dans ces secteurs qui, de facto, exclut de plus en plus les habitants. Reportage François Coulon.
Les vitrines de l'agence Britannia portent encore les stigmates de l'opération Commando, 64% en vert fluorescent. C'est le pourcentage des résidents secondaires à Quiberon. Autre chiffre, 5374, le nombre des logements qu'ils occupent. Lundi matin, le choc pour Caroline.
J'ai éclaté un sanglot. On ne travaille qu'avec des résidences secondaires. Les gens, ils me disent, bah dis donc, il y a ça à Quiberon. Des groupuscules comme ça, du coup, ça va peut-être moins les inciter à acheter. On a des propriétaires qui nous ont appelés tout de suite dans l'heure et qui nous ont dit de ne pas mettre les panneaux à vendre sur leur maison. Sans résidence secondaire et sans touristes, Quiberon n'est plus rien.
À 20 km de la Carnac a subi le même traitement peinture lurée, un 72% rageur sur 6 commerces et la mairie d'Olivier-le-Pic.
Ça représente plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énormément de familles qui en vivent. Allez voir un menuisier, il va vous dire « mais moi, sans les résidences secondaires, je ne sais plus vivre ». La revendication qui consiste à dire « on veut vivre chez nous, mais sans emploi, sans économie, sans ressources », c'est très bien, mais ce sera sans moi.
Les 12 communes littorales bretonnes ciblées redoutent de nouvelles actions. Quiberon, François Coulon, Europe.
Et 12h48 sur Europe 1, la suite du journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Europe 1. Et vous restez avec nous dans un instant. Rien ne va plus pour le PSG. Et aussi, la sélection. À Cannes, bien sûr. À tout de suite.
Il est 12h51 sur Europe 1. La suite du journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et décidément, Pierre, quand ça veut pas, ça veut pas.
Et hier, non, ça n'a pas voulu. Les Parisiens se sont encore fait dominer en championnat de France. Défaite 3-2 face à Nantes. Le titre, c'est donc pas pour cette fois non plus. Deuxième défaite consécutive pour le PSG. Qu'est-ce qui se passe, Christophe Lamar ?
Eh bien, c'est ce que tout le monde cherche à savoir. Pas sûr que les joueurs eux-mêmes aient la réponse. D'ailleurs, hier soir, ils devaient être bien embêtés au moment de livrer quelques explications aux supporters parisiens en colère. Le capitaine, Prenel Kimpembe, a tenté de les rassurer comme il a pu. Le titre ne nous échappera pas, ne vous inquiétez pas. Avec 17 points d'avance, cela ne fait aucun doute. Mais la situation devient embarrassante et ingérable. L'entraîneur Thomas Tuchel perd lui aussi ses nerfs. Ce matin, certains joueurs parisiens doivent souffrir d'acouphènes, tant leurs oreilles ont sifflé hier soir. D'habitude, un entraîneur protège toujours ses joueurs face à la presse. Hier soir, il était furieux et il l'a fait savoir. Le pire match du PSG cette saison, je ne peux pas les défendre, s'est-il exclamé, avant d'ajouter qu'il n'avait pas d'explication lui non plus. En fait, personne ne sait pourquoi le navire se met à tanguer si soudainement. Bien sûr, les stars manquent, mais cela ne dit pas tout. Problème d'envie, de niveau, de confiance. Paris est en crise et personne ne semble en mesure de la résoudre.
Merci Christophe Lamar.
Ça y est, on a la sélection officielle du prochain festival de Cannes. Mathieu Charrier, vous êtes en direct de la conférence de presse du festival et c'est un retour aux sources avec des habitués et des stars.
Et oui, un festival romantique et politique, voilà, ce sont les mots de Thierry Frémaux, le délégué général. Alors effectivement, des habitués, parmi lesquels les frères Dardenne qui seront là pour présenter un film sur la radicalisation. Ken Loach également, vous savez que les frères Dardenne et Ken Loach, ils ont déjà remporté deux palmes d'or. Est-ce qu'ils en remporteront une troisième? Ce serait une première dans l'histoire. Face à eux, ils auront quand même Xavier Dolan, le prodige québécois, Marco Bellocchio, Pedro Almodovar également, le réalisateur espagnol. Ça, ce sont pour les grandes stars internationales. Et puis du côté des Français, on aura quatre compétiteurs et compétitrices. Il y a d'abord Arnaud Desplechin qui présentera son film Roubaix, une lumière avec Léa Seydoux et Sarah Forestier. On attend aussi Lajli pour un film sur les banlieues, sur Montfermeil. On nous promet un film coup de poing, on a hâte de le découvrir. Et puis deux réalisatrices, Céline Sciamma pour le portrait de la jeune fille en feu porté par Adèle Haenel et Justine Trier. Vous savez, elle avait fait il y a quelques années Victoria avec Virginie Efira. Eh bien, elle sera de retour de nouveau avec Virginie Efira, mais cette fois pour un film qui s'appelle Sibylle.
Dans le hors compétition, Mathieu, il y a beaucoup de stars attendues sur la croisette.
Ah, ça, c'est moins qu'on le puisse dire, notamment si je vous annonce Elton John sur les marches du Palais des Festivals. Vous imaginez ce que ça va donner.
Ouais.
Thierry Frémaux espère bien d'ailleurs lui mettre un petit piano pour qu'il joue quelques notes, mais ça, c'est pas encore garanti. Il va surtout venir présenter un documentaire qui lui est consacré, qui s'appelle Rocketman. On attend aussi la suite d'Un homme et une femme de Claude Lelouch, ça date d'il y a quelques années maintenant, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes. Eh bien, il y a une suite qui a été tournée, qui sera présentée en avant-première au festival avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée qui seront là sur place. Il y aura beaucoup d'émotions, je pense. Du côté du sport, on parlait de foot il y a quelques instants, on attend la star mondiale du football, Diego Maradona, puisque là aussi, un documentaire lui est consacré. Il devrait, en principe, venir le présenter. Et puis, vous savez qu'Alain Delon viendra recevoir une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, le grand Alain Delon qui sera là sur les marches du Palais des Festivals. Vous aurez noté que dans tout ce que je vous ai dit, eh bien, il n'y a toujours pas de film. Netflix, vous savez, depuis quelques années, c'est la grande question. Est-ce que Netflix va venir en compétition à Cannes ? Le festival continue de demander à la plateforme américaine de sortir ses films en France, sur les écrans français, s'ils veulent pouvoir concourir. Netflix continue de refuser. Eh bien, cette année encore, pas de Netflix à Cannes.
Ben, je vous remercie, Mathieu. Maintenant, j'ai Rocketman dans la tête pour le restant de la journée.
C'est plutôt pas mal, non ?
Oui, c'est pas mal, oui.
Merci Pierre, on vous retrouve d'ici quelques minutes pour les grands titres de l'actualité.
Il est 12h55.
Europe 1.
Restez avec nous, on vous emmène en balade aux quatre coins du pays. Nous allons découvrir des distilleries qui font écrire le whisky, oui mais à la française.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec Elena Morna. Alors attention, les œufs et les lapins en chocolat risquent bien de fondre.
Ah bah oui, il ne faut pas les cacher tout de suite, hein, parce que là, c'est vrai qu'avec le mercure qui s'emballe, déjà cet après-midi, ça va monter d'un cran, chaque jour d'ici lundi. Alors, cet après-midi, tout le monde ou presque passe au-dessus des 20 degrés. Pourquoi presque ? Pourquoi 18 à Dunkerque et Perpignan ? Pourquoi 19 à Nice ? Eh bien, Dunkerque, c'est à cause de la brise de nord qui empêche l'envolée du mercure. Pour Perpignan et Montpellier, ce sont les nuages et pour Nice, c'est la brise marine. Alors côté ciel, c'est donc lumineux sur l'ouest malgré la présence d'un voile nuageux. Un bémol près des Pyrénées avec des nuages qui débordent une dépression espagnole. Et plus on va vers l'est, plus le ciel est bleu avec des pointes, attention, déjà cet après-midi à 25-26 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, 24 à Nantes, Paris, Auxerre, 23 pour Brest et Lyon.
Merci Elena Morna. Nous sommes le jeudi 18 avril, et c'est l'heure des titres. Pierre de Villeneuve.
Vous avez été exemplaire sous le regard du monde entier. Hommage d'Emmanuel Macron aux 400 pompiers qui ont bravé les flammes à Notre-Dame de Paris la nuit de lundi à mardi. Ils ont été reçus à l'instant à l'Élysée. Ils se verront remettre la médaille d'honneur et d'encouragement par le président de la République. Aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver une solution à l'échafaudage. 250 tonnes d'acier qui menacent de s'effondrer. Le ministre allemand des Affaires étrangères, attendu sur l'île de Madère au Portugal, où 29 touristes en provenance d'Allemagne ont trouvé la mort hier dans un accident de car. C'est la semaine de la vaccination. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a lancé une campagne de sensibilisation, première depuis l'obligation d'administrer les vaccins aux nouveau-nés. Décidément, Paris manque de magie. Nouvelle défaite du PSG battu à Nantes, 3-2. Paris qui doit encore patienter avant de remporter son titre de champion de France. Et puis on connaît la sélection officielle du Festival de Cannes au programme. Dans le désordre, Almodovar, Desplechin, Loach, les Frères d'Ardennes et la suite d'Un homme et une femme de Claude Lelouch.
Merci Pierre, à tout à l'heure. On vous retrouve pour les grands titres de l'actualité de ce jeudi, juste avant 14h.